Bonjour et bienvenue dans l'édition de cette semaine de À propos. Je viens vous informer au sujet des récents événements dans les régions francophones de l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai déjà annoncé, le gouvernement rwandais a interdit à notre association religieuse toute activité officielle dans ce pays. Notre salle d'église est cadenassée depuis un an et demi. Il m'est interdit de tenir un service religieux, de baptiser de nouveaux membres, de célébrer des mariages ou d'exercer toute activité officielle de l'église. L'année dernière, pour la première fois depuis plus de 40 ans, nous n'avons pas pu organiser la fête des tabernacles pour la centaine de nos membres au Rwanda. Il s'agit véritablement d'une persécution manifeste, même si bien entendu le gouvernement le nie. Les responsables affirment qu'il existe une liberté religieuse tant que les associations remplissent certaines conditions, mais ils rendent ensuite ces conditions impossibles à satisfaire. Nous savons que la Bible prophétise des persécutions religieuses contre les véritables chrétiens à mesure que nous approcherons du temps de la fin. La situation actuelle pourrait être un avant-goût de ces événements futurs. Nous n'avons enfreint aucune loi, nous n'avons jamais été accusés de quelque méfait que ce soit, nous avons contribué à l'économie et à la nation rwandaise au moyen de sommes considérables, mais nous avons été rendus illégaux. Nous espérons pouvoir organiser une fête des tabernacles pour nos frères et sœurs rwandais de l'autre côté de la frontière, en Ouganda, cette année. À cette fin, fin juin, M. Tim Waddell, notre pasteur en Afrique du Sud, qui s'occupe également de nos frères en Ouganda, et moi-même, nous nous sommes rendus dans ce pays. Nous avons passé plusieurs nuits sur les rives du lac Victoria. Le lac Victoria est le plus grand lac d'Afrique en superficie, le plus grand lac tropical du monde et le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde par sa superficie, après le lac Supérieur en Amérique du Nord. Depuis Ntebe, nous avons parcouru cette heure en véhicule tout-terrain jusqu'à proximité de la frontière rwandaise afin de rechercher un site de fête approprié. Nous avons passé la nuit dans une maison d'hôte rurale, loin de tout bruit urbain. Et le lendemain, après avoir visité plusieurs hôtels, nous avons trouvé un établissement convenable, non loin de la frontière, pour y organiser le déplacement de nos frères rwandais pour la première moitié de la fête. Notre pasteur au Rwanda, M. Mundeli, est actuellement très malade à la suite d'une crise de tuberculose. Je souhaiterais vous demander de prier pour son rétablissement rapide et complet. Il a été un serviteur fidèle pendant des décennies et demeure un merveilleux serviteur de Dieu et de son peuple dans son pays. Il est probable qu'il ne puisse pas se rendre sur le site de la fête, aussi mon épouse et moi prévoyons de célébrer la première moitié de la fête en Ouganda. Nous nous rendrons ensuite au Cameroun, où nous n'avons pas d'anciens, afin de célébrer la seconde moitié de la fête avec nos frères et sœurs. Comme nous avons trouvé un site pour la fête plus vite que prévu, M. Waddell et moi avons eu une journée supplémentaire dans le pays. Nous en avons profité pour faire une courte excursion en dehors d'Entebbe, où se trouve l'aéroport, jusqu'à Jinja, afin de visiter la source du Nil Blanc. Vous savez peut-être que le grand fleuve Nil, qui se jette dans la Méditerranée depuis l'Égypte, possède deux principaux affluents, le Nil Bleu, nommé ainsi en raison de ses sédiments foncés, prend sa source dans le lac Tana en Éthiopie, et le Nil Blanc, nommé pour sa couleur plus claire, prend sa source dans le lac Victoria en Ouganda. Les deux affluents se rejoignent à Khartoum, au Soudan. Le fleuve coule ensuite vers le nord jusqu'à la Méditerranée. Les fleuves sont un thème important dans la Bible, symbole de fertilité et de vie. Ainsi, pour moi, naviguer sur l'un des grands fleuves du monde est une expérience exaltante. Depuis l'Ouganda, je me suis envolé pour le Rwanda, où j'ai pu rencontrer M. Mundeli ainsi que certains de nos frères. Nous avons pu fraterniser, nous encourager mutuellement et partager un repas. Ne pas être autorisé à observer le sabbat ensemble est une épreuve pour nos frères et sœurs au Rwanda, comme vous pouvez bien l'imaginer, aussi toute occasion de se rassembler est-elle très appréciée. J'ai poursuivi mon voyage en avion, du Rwanda vers le sud, au Burundi, où environ 700 personnes assistent à nos assemblées. J'ai rencontré notre pasteur local, M. Mukeshimana, qui souffre également de graves problèmes de santé. Je vous prie de bien vouloir également penser à lui dans vos prières. Le jour du sabbat, je me suis rendu vers le nord depuis Bujumbura pour observer le sabbat avec plusieurs centaines de membres dans notre salle à Mugina, tout près des frontières congolaises et rwandaises. Il était bon d'être à nouveau réunis et de partager la parole de Dieu. Après l'assemblée, nous nous sommes arrêtés pour voir un grand terrain que nous pourrions acheter afin de construire une simple salle d'église pour la congrégation dans la ville frontalière voisine de Rugombo. Il s'agissait d'un voyage assez rapide, organisé en raison des difficultés que nous rencontrons au Rwanda, mais je crois que Dieu nous a accordé le succès et l'opportunité d'encourager nos frères et sœurs dans ces pays d'Afrique de l'Est. La semaine dernière, M. Taylor a mentionné leur voyage en Europe. Notre voyage a coïncidé avec le leur, mais a également inclus d'autres régions. À peine une semaine après mon retour d'Afrique, mon épouse et moi avons pris l'avion pour Prague, en République tchèque. Nous nous y sommes rendus pour rencontrer un diacre de l'Église, M. Hervé Hirion, qui travaille pour le département d'État. M. Hirion est français et nous aide au sein du département francophone en relisant les traductions de nos publications. Nous apprécions son travail et il était nécessaire de le rencontrer pour discuter de ses tâches actuelles et futures. Il nous a conviés à visiter l'ambassade et ses environs et le lendemain, nous avons passé le sabbat en sa compagnie. Nous avons organisé une courte étude biblique et il nous a préparé un excellent dîner de sabbat. Nous nous sommes retrouvés le dimanche pour poursuivre nos discussions sur notre collaboration. Nous l'avons invité à déjeuner dans une tour de pierre fortifiée datant d'environ 1475. Ce n'est pas le genre de choses que nous pouvons généralement faire au Texas. Le jour suivant, nous avons pris l'avion pour Bordeaux via Amsterdam. À Bordeaux, j'ai rendu visite à plusieurs membres au cours de deux journées. Parmi eux, figuraient Chad et Laetitia de Marest, qui vivent à Bordeaux et commencent à servir l'Église en France. Nous avons dîné avec eux, ainsi qu'avec M. James Muir et son épouse Odile, qui servent nos frères et sœurs en Europe francophone. Il est important de pouvoir discuter de notre travail commun, alors que nous servons ensemble en Europe, d'autant plus que mon épouse et moi ne pourrons pas assister à la fête, en France, cette année. Depuis Bordeaux, nous avons pris l'avion pour Zurich, en Suisse, où, quelques heures plus tard, les Taylor sont arrivés des États-Unis via Londres. Nous avons conduit pendant quelques heures jusqu'aux Alpes, où nous avons pu admirer les vues majestueuses, pendant qu'ils se remettaient du décalage horaire. Le vendredi 1er août, c'était la fête nationale célébrant l'indépendance suisse. Depuis les balcons de notre hôtel, nous avons assisté à un défilé mené par des hommes robustes, faisant sonner d'énormes cloches suisses. Des feux d'artifice illuminaient le ciel. Ce fut une soirée haute en couleurs et inhabituelle. Nous avons passé un merveilleux sabbat dans la ville d'Yverdon, au bord du lac, où 11 personnes étaient présentes, venant de 4 pays différents. M. Taylor a prononcé un excellent sermon, qui a été traduit en français et en espagnol pour ceux qui en avaient besoin, après quoi nous avons partagé un repas et un moment de convivialité. Nous avons voyagé de la Suisse vers la France, où nous devions passer le sabbat suivant à Paris, et entre les deux sabbats, nous avons pu faire découvrir aux Taylor quelques sites historiques fascinants, notamment les plages du débarquement en Normandie, où, le 6 juin 1944, les forces alliées ont débarqué pour commencer la libération de l'Europe occidentale du joug nazi. Il est bouleversant de voir les falaises et les plages où tant de jeunes hommes ont combattu et sont morts pour libérer les Européens de la botte nazie. Le cimetière militaire américain de Colville-Saint-Laurent suscite un mélange d'émotions. La tristesse face à la perte tragique de tant de jeunes vies, la reconnaissance pour ce que leur sacrifice a permis d'accomplir, une certaine fierté devant leur volonté de se sacrifier pour autrui, ainsi que l'espoir et la joie de savoir qu'ils vivront tous à nouveau dans un monde meilleur. Sur le chemin du retour vers Paris, nous avons également eu l'occasion de visiter 3 châteaux dans la vallée de la Loire, où se trouvent certaines des architectures les plus majestueuses et évocatrices d'Europe. Nous avons partagé un casse-croûte avec fromage français, baguette et un verre de vin. Le sabbat à Paris, 14 membres se sont réunis, venant de plusieurs régions de France. Monsieur Taylor a prononcé le serment. Nous avons fraternisé après l'assemblée jusqu'à leur départ. Je mentionnerai un dernier endroit que nous avons visité avant que les Taylor et nous ne prenions des chemins séparés. Ils nous avaient demandé de les emmener dans un lieu où la plupart des touristes ne vont pas, alors je les ai guidés vers le cimetière de Picpus, en plein centre de Paris. Il s'agit d'un cimetière privé, encore en activité, mais seules les personnes guillotinées pendant la Révolution française ou les membres de leur famille ou leurs descendants peuvent y être inhumés. Le plus célèbre d'entre eux est le marquis de Lafayette, un riche Français qui servit sous les ordres de George Washington pendant la Révolution américaine. Lafayette fut invité à prendre la parole lors de la commémoration du 50e anniversaire de la bataille de Bunker Hill à Boston et il demanda qu'on lui remette un baril de terre provenant de Bunker Hill. Il donna pour instruction d'être enterré sous cette terre et ce fut fait. La section parisienne des filles de la Révolution américaine a placé un drapeau américain sur sa tombe. Le drapeau est remplacé chaque année. Les murs du cimetière sont si hauts que pendant l'occupation allemande de Paris durant la Seconde Guerre mondiale, le drapeau américain y flottait toujours. Les Allemands n'ont jamais su qu'il était là. Je pense que cela peut nous rappeler qu'il se passe souvent plus de choses dans nos vies et autour de nous que ce que nous percevons. Nous commettons parfois l'erreur de penser que ce que nous voyons est tout ce qui existe. Ce n'est pas le cas. Dieu accomplit un grand dessein qui nous inclut, mais nous ne devons jamais imaginer que nous le comprenons entièrement, comme l'ami de Job lui a demandé au 11e chapitre du livre qui porte son nom. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Nous pouvons être reconnaissants que Dieu soit tout-puissant et omniscient. Il sait absolument tout. Eh bien, de la part de nous tous au bureau du siège, je vous souhaite sincèrement un sabbat paisible et très encourageant.